7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pourquoi et comment compter la population ? À l'occasion du grand recensement annuel en France, on va s'interroger plus largement. Nous sommes désormais sur Terre, non plus du tout 7 milliards de voisins, mais 7 milliards 700 millions d'habitants. Je parle sous le contrôle de Gilles Pison, démographe, qui est à ma gauche dans le studio. C'est ça, à peu près ?
Avec une incertitude, on ne connaît pas à l'unité près, mais à 1 ou 2% près,
voilà,
c'est le
titre de l'émission, c'est fini, 7 milliards en tout cas. Alors comment les démographes s'y prennent-ils pour compter la population alors que près d'un milliard de personnes ne possèdent pas d'acte de naissance ? Pourquoi aussi de Madagascar à l'Europe, les recensements suscitent parfois une méfiance des habitants ? Vous pouvez en tout cas poser toutes vos questions à nos invités. Gilles Pison, donc bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, chercheur associé à l'INED et vous venez de publier l'Atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Également avec nous Valérie Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de la démographie à l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc qui pilote le recensement en France, associé bien sûr avec les communes. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous avez eu la visite d'un agent recenseur dans votre quartier, racontez-nous, ou si votre pays attend toujours un recensement, en tout cas, vous avez la parole. N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. Le numéro de téléphone, c'est aussi un WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. Et vous pouvez aussi poster sur WhatsApp des messages écrits.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Gilles Pison et Valérie Roux, pourquoi, dans le fond, compter la population, Gilles Pison ?
Alors, le recensement, il a pour premier objectif de savoir combien il y a d'habitants et quels sont-ils au niveau le plus fin, au niveau le plus local. C'est important pour une administration en matière d'éducation, de santé, de transport, pour savoir quel est le besoin en nombre d'écoles, en nombre d'enseignants, en nombre d'hôpitaux, de dispensaires. C'est la base et donc c'est au niveau local en premier. Et puis quand on totalise le nombre d'habitants dans les différentes communes, différents départements, ben, on arrive à un total pour le pays. Là aussi, c'est utile pour un État de savoir combien il y a d'habitants et si la population augmente ou diminue, quelle est la composition par âge. Donc c'est des renseignements de base pour la gestion des affaires collectives.
Et quelle est la fréquence recommandée pour compter la population d'un pays ?
Alors, les statisticiens se sont concertés et donc ils proposent, ils ont des recommandations pour les pays, pour l'organisation de leur recensement. Et donc, les Nations Unies préconisent de faire un recensement tous les 10 ans au moins, donc d'avoir des recensements à peu près régulièrement. Et puis, elles aussi préconisent un certain nombre de règles pour organiser les recensements. La première, c'est que on recense tout le monde dans le pays, quel que soit le sexe, l'âge, la nationalité, donc les nationaux et les étrangers, et aussi le statut, y compris les minorités, donc chaque habitant compte. Et il y a une deuxième règle, on ne recense que les personnes qui habitent le pays. On ne recense pas celles qui vivent ailleurs, par exemple les expatriés, les personnes nées dans le pays qui l'ont quitté, ou celles qui ont la nationalité qui vivent oui, ailleurs. Alors c'est important parce que pour pouvoir après totaliser, si chacun fait son recensement à sa façon, on peut plus faire les totaux. Et donc c'est des règles que se sont données les statisticiens qui préconisent. Et certains recensements qui ne respectent pas ces règles peuvent être invalidés. Ça a été le cas d'un recensement en Bosnie-Herzégovine il y a quelques années, où ils ont compté aussi leurs expatriés dans le but de gonfler leurs effectifs. Non, il faut compter les personnes qui vivent dans le pays, qui résident dans le pays, et toutes les personnes qui résident dans le pays.
Alors voilà. On le voit bien, ça peut avoir une dimension politique de comté. Hein.
Ah bien sûr, bien sûr.
On va en reparler, mais Valérie Roux, pour le recensement en France, chez nous c'est tous les ans, alors que ce qui est préconisé c'est tous les 10 ans. On est dans un pays qui adore les recensements.
Alors la méthode de recensement en France a changé après le recensement exhaustif de 1999. Auparavant, on avait, comme les normes internationales le recommandaient, un recensement tous les 8-9 ans. Et puis on s'est rendu compte que la société évoluant rapidement, un recensement tous les 8-9 ans, bah, ça fait une information qui est fraîche au départ. Et puis au bout de 4-5 ans, bah, vous ne savez plus très bien votre commune, votre région, finalement qu'est-ce qui se passe au niveau de ses habitants. Et également, on s'est rendu compte que c'était un budget très important pour l'État que de financer un recensement et qu'il y avait un risque que ce recensement soit décalé d'un an, deux ans, pour des raisons budgétaires. Et du coup, il y a eu cette nouvelle méthode de recensement qui est très, très innovante et unique, qui est la méthode française, qui a été conçue pour être menée de manière annuelle et permettre de fournir des chiffres tous les ans. Et donc ce recensement en continu a lieu depuis 2004, tous les ans.
Ouais, alors tout le monde n'est pas recensé hein, tous les ans.
Alors du coup forcément ce n'est pas un recensement exhaustif tous les ans. En fait le recensement en France fonctionne sur un cycle de 5 ans. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, une fois tous les 5 ans, tous les habitants sont recensés. C'est une méthode traditionnelle, mais tous les 5 ans.
Tout le monde reçoit le fameux questionnaire.
Une fois tous les 5 ans.
On peut le faire en ligne, mais on reçoit le papier en tout cas. Hein.
Voilà, exactement. Il y a un cinquième des petites communes qui sont recensées chaque année. Et donc au bout de 5 ans, toutes les petites communes de moins de 10 000 habitants et tous les habitants qui vivent dans ces petites communes sont recensés. Dans les grandes communes, c'est une méthode qui combine l'utilisation d'un répertoire de logements exhaustif que l'on construit en continu avec une collaboration forte avec chaque commune et un sondage. Tous les ans, ce sont 8% des logements dans les grandes communes qui font l'objet d'une interrogation.
C'est ça. Alors donc là, certains habitants, 8%, reçoivent le papier, l'ont reçu déjà cette année. Vous êtes concerné par le recensement. Le recensement de la population, c'est utile, c'est sûr, c'est simple. Il faut quand même, il faut donner envie aux habitants de répondre pour qu'il y ait cette petite phrase.
Les trois termes sont très importants, je pense. D'abord, l'utilité, comme on l'a dit, ça fixe la population et la population a beaucoup d'incidence dans beaucoup de textes législatifs et réglementaires. La population, par exemple, ça fixe la dotation financière que l'État va donner à chaque commune. Donc c'est très important pour un maire d'avoir une population qui corresponde à sa réalité. Mais au-delà de ça, ça permet de connaître toutes les caractéristiques des habitants d'un territoire et comment les habitants évoluent. Pour pouvoir construire une crèche s'il y a de plus en plus de familles avec des enfants qui arrivent, des services aux personnes âgées si la population vieillit, etc. Donc l'utilité, c'est très important. La sûreté aussi, parce qu'on comprend que les gens, quand ils délivrent des informations personnelles, ils veulent savoir ce qu'on va faire de ces informations personnelles. Et donc ce qui est très important, c'est que toutes les informations qu'on recueille ne servent qu'à établir des statistiques. Et il n'y a aucun transmission de données à aucune autre administration.
Par exemple, vers les services fiscaux.
La crainte qu'il peut y avoir, c'est absolument impossible. C'est contrôlé par la Commission nationale informatique et liberté. Et c'est vraiment étanche. Et le fait qu'on le fasse tous les ans permet de vérifier que le protocole est très sécurisé. Sinon, ça se saurait. Et c'est simple, c'est-à-dire que les questions sont très simples et rapides à répondre.
Alors justement, on a en gros, 9 millions d'habitants, c'est ça, qui sont recensés en un mois avec 24 000 agents recenseurs, c'est à peu près les chiffres.
C'est ça, c'est une opération énorme qui a lieu en 4 à 5 semaines. Effectivement, il va falloir recenser en 4 à 5 semaines 9 millions d'habitants. Donc c'est un challenge chaque année que d'arriver à recenser ces 9 millions d'habitants.
Et vous disiez, Valérie Roux, que la méthode française, elle est assez unique. Ça veut dire qu'on est un des rares pays au monde à faire autant de recensements, à faire un recensement tous les ans sur un aussi gros échantillon, 8%.
On est le seul.
On est le seul au monde.
Ah, ouais.
Alors, les façons de faire le recensement varient. Si vous voulez, à l'extrême, vous avez des pays qui disposent de toutes les informations pour savoir, pour connaître leur population et qui ne font plus de recensement. C'est les pays scandinaves. Pourquoi ? C'est parce que ces pays disposent de registres de population, alors au niveau municipal, mais qui agrégés forment un registre national de population. Et il est si bien tenu que pour faire le recensement, ils le font chaque année, en fait, ils interrogent leur registre de population. Et donc, ils ont décidé de supprimer les opérations exhaustives, comme celles que font la plupart des pays encore. Alors, à la fois parce que ça coûte de l'argent, et puis qu'il y a une réticence croissante des personnes à répondre à ce type de questions. En plus, certains mais disent, vous avez déjà les informations, pourquoi vous nous redemandez? Voilà. Donc, c'est des pays qui ont, si vous voulez, indépendamment, tout ce qu'il faut pour connaître leur population. Alors, il y a des pays qui ont des registres de population, mais qui aussi complètent par des enquêtes ou des recensements légers. Et puis, il y a les États-Unis qui ont une méthode un petit qui se rapproche de celle de la France. Ils font un recensement tous les 10 ans. C'est dans la Constitution américaine, mais c'est un recensement exhaustif, mais où il n'y a que 6 questions qui sont posées. Donc, très, très, très petit. Comme, ça, c'est tous les 10 ans. Alors, ça ne suffit pas. Et donc, tous les ans, ils font une enquête annuelle sur un échantillon de 2 à 3 % des habitants ou des familles, où là, avec un questionnaire très long, plus long que le questionnaire du recensement français, et où ils ont au total, en combinant ces deux sources, l'essentiel de ce dont ils ont besoin. Donc c'est aussi une façon un peu particulière avec le Canada, qui a une méthode.
Alors vous parliez de 5 questions basiques, 5 ou 6 questions basiques pour les États-Unis. En France, on pose beaucoup plus de questions.
Et puis en plus, les questions posées dans le recensement américain exhaustif, ce n'est pas les mêmes. Il y a le prénom et nom, première question, le sexe. Troisième question, âge et date de naissance. Quatrième question, l'origine. On vous demande si vous êtes hispanique ou non hispanique. La cinquième, c'est la race. Donc, vous avez 14 catégories. Vous pouvez cocher plusieurs cases. Et puis, sixième question, est-ce que vous résidez aussi ailleurs de temps en temps? Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont plusieurs résidences. Et c'est tout. Donc, on organise une opération énorme, très coûteuse, tous les 10 ans, pour ces 6 questions. C'est assez étonnant.
Alors en France, on pose énormément de questions sur la nationalité, la situation familiale, l'adresse du lieu de travail, vous demandez-vous.
Alors en France, on pose...
Le mode de transport, comment vous rendez au travail?
Alors effectivement, on a plus de questions que dans le recensement américain. Ce n'est pas énormément de questions non plus. C'est-à-dire que pour une personne, sur le papier, ça correspond à un recto verso, ce qu'il a à répondre. Mais effectivement, on s'intéresse, par exemple, au lieu de travail. Ça permet au niveau des communes et des départements de bien connaître les flux de déplacements quotidiens entre des lieux de domicile et des lieux de travail. Et donc, d'anticiper sur les infrastructures de transport en commun ou sur le cadencement des transports en commun qui vont être nécessaires. Donc, c'est des informations très intéressantes d'avoir ces migrations alternantes pour aller travailler, très structurantes pour les territoires.
On voit bien qu'il y a toute une pédagogie en France pour expliquer aux habitants que si on est intrusif, entre guillemets, si on pose des questions, c'est pour améliorer les conditions de vie.
C'est tout l'objectif du recensement. C'est bien de pouvoir donner aux acteurs publics et puis aux chercheurs la possibilité d'analyser les phénomènes.
Alors, je le disais au début de l'émission, j'ai donné notre numéro de téléphone, mais bien sûr, vous pouvez aussi poser vos questions sur WhatsApp. Je redonne le numéro du standard, 33 1 84 22 71 71. Une question d'Aubin qui a été postée de Libreville au Gabon. Les chiffres donnés sur la population mondiale sont-ils vrais? Alors qu'en Afrique subsaharienne, les méthodes pour compter la population ne sont pas efficaces. Gilles Pison, dans le fond, c'est 7,7 milliards, là, qu'est-ce qu'on en sait?
Oui, alors, d'abord, les recensements africains, ils sont faits pour la plupart de façon consciencieuse, dans les règles de l'art, et donc, ils ne sont pas tellement moins bons que ceux des autres pays. Je dirais que partout, le recensement donne des effectifs, alors notamment des effectifs totaux pour le pays, qui sont imprécis à 1, 2% près. C'est normal, c'est pas facile de saisir toute la population à un moment donné. Alors après, quand on fait la totalisation à l'échelle mondiale, donc 7 milliards 700 millions, bon, qu'est-ce qui vaut? Probablement que les erreurs en plus ou en moins se neutralisent pour partie, mais peut-être que ce chiffre, il est vrai à 1 ou 2% près. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 100, 200 millions d'humains en plus que les 7,7 milliards ou en moins. Mais le plus impressionnant, c'est que c'est pas tellement qu'on soit 7,7 milliards, près de 8 milliards, c'est qu'on le sache. Et donc, Si on le sait, c'est grâce à tous les recensements. Il n'y a plus aucun territoire sur la planète qui n'a pas fait l'objet de un ou plusieurs recensements aujourd'hui.
Si ce n'est qu'entre la France qui fait un recensement tous les ans, qui est un pays dingue de recensement quand même, et Madagascar qui en est à son troisième, là, cet été, évidemment, il y a de fortes inégalités.
Alors, normalement, les pays réalisent le recensement tous les 10 ans au moins. La plupart des pays respectent, c'est important d'avoir un recensement. Ceux qui n'ont pas pu faire de recensement, c'est pour différentes raisons.
Et ben on va en parler justement de ces différentes raisons, de la méfiance aussi que suscitent les recensements. En tout cas, vous avez répondu à la question d'Aubin, merci. Et bien évidemment, vous pouvez continuer de nous écrire ou de nous appeler pour poser vos questions à nos invités démographes, 33 1 84 22 71 71. Nous parlons des recensements de population dans le monde. Pourquoi donc compter la population et comment ?
مهد البشرية ومهد الكون أتزي
إيه نياتو كان لهم ميبا ميادو زوني مواني بازون ميدي بلاوا ميسوني مياي كبا 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 لا
إيه جنة جنة مغربية
لالا جبتي القمرة وجبتي الزين جبتي الدنيا كاملة جبتي الطماعة وجبتي العين وإلى السماء غايمة شدة صغيرة تزول منا الحين يوم عندك السمراء فارقة وحنا كنا ساكنين
Jambar jawar wali kay yay barom nyakute ورجال حرار معادن ما تلوب بالنار يحميك القهار من الطماعة والعشرار بلادي انتي يا مهما
C'est Aziz Samaoui chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct en compagnie des démographes Gilles Pison, Valérie Roux pour l'INSEE à l'occasion du grand recensement en France, recensement annuel. On s'interroge pourquoi donc compter la population d'un pays ? Quelle méfiance aussi suscite les recensements selon les pays, les voisins ? Bien sûr, vous pouvez nous appeler d'une part pour questionner nos invités ou témoigner si vous avez été visité par des agents de recensement. Une question d'Ivano qui est auditeur au Gabon. Le recensement est-il fait en une journée ? Parce que si un chef de famille se déplace, il ne va pas être compté. Comment faites-vous ?
Alors donc le recensement, c'est pour ça qu'il a lieu, alors pas en une journée, parce qu'on serait bien incapable de compter tout le monde en une journée, mais c'est pour ça que c'est que sur 4 à 5 semaines. Et les populations les plus mobiles, notamment les sans-abri, et ceux qui vivent dans des habitations mobiles, dans des tentes ou des caravanes, on les recense les 2 premiers jours de la collecte. Par contre, si quelqu'un, par exemple, est en mission à l'étranger et n'est pas dans sa famille, la famille va quand même le déclarer comme faisant partie de ce logement et vivant habituellement dans ce logement.
Oui, parce qu'en fait, le principe, c'est on part des communes, des toutes petites, des plus petites localités, c'est du porte-à-porte, en fait. C'est ça le principe, Gilles Pison.
Ah ben oui, chacun est recensé dans son logement, et remplit la feuille de logement et puis les feuilles individuelles. Mais c'est vrai que c'est important, puisqu'on est mobile, nous humains, c'est de se donner une date de référence. Et souvent, d'ailleurs, il y a un jour précis, le recensement américain, le dernier, c'était le 1er avril 2010, Hein, c'est... Et même, ce n'est pas un jour, c'est la nuit du. Donc, ce qui fait référence, c'est là où vous étiez la nuit du temps au temps. Bon, voilà, vous passez votre nuit au même endroit, vous ne changez pas. Mais ces mobilités, c'est vrai, posent un petit problème. C'est pour ça qu'on se fixe une date précise. Après, le questionnaire peut être rempli plusieurs jours après, mais c'est, ce qui fait foi, c'est cette date.
Où étiez-vous à telle date ? Voilà. On est obligé de répondre à, au questionnaire d'un recensement.
Alors,
pour la France.
Le recensement est obligatoire d'après. Il est obligatoire et donc, normalement, tout le monde doit répondre. On essaye plutôt d'insister sur le fait que c'est un acte civique important pour aider, du coup, les acteurs publics à orienter leur politique et qui prend peu de temps à chacun. Mais il peut être passible d'une amende éventuellement si la commune le décide.
Alors si on n'a pas rempli le questionnaire, notamment sur Internet, puisque maintenant dans un pays comme la France, ça se fait beaucoup sur Internet, on est relancé
Alors en fait, le recensement, il est vraiment bâti sur un partenariat entre l'INSEE et les communes. L'INSEE détermine les méthodes, forme les agents, contrôle et établit les données. Mais en fait, c'est la commune qui elle-même est responsable de la collecte. Donc elle recrute des agents recenseurs. Ce sont des agents assermentés qui ont une carte bleu-blanc-rouge signée du maire et qui sont soumis au secret professionnel. Ils vont se présenter devant chaque logement et ils vont proposer aux personnes de répondre par Internet aujourd'hui, en première instance. Si les personnes peuvent répondre par Internet, on va simplement leur donner une notice avec des codes d'accès. S'ils ne peuvent pas, dans ce cas-là, on leur remet des questionnaires papier et l'agent recenseur reviendra les chercher ultérieurement. Mais il y a bien ce contact avec l'agent recenseur.
Alors, on le disait en début d'émission, la France est le seul pays au monde à procéder de cette façon-là, avec un recensement annuel sur un échantillon donné de la population, 8%, et puis au bout de plusieurs années, ça s'accumule, on fait des moyennes, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque année, on a une vision précise sur 40% de la population. Hein. C'est à peu près ça, pour vulgariser.
C'est pour les communes de plus de 10 000 habitants, oui, voilà, qu'il y a 8% de la commune. Les petites communes, c'est...
Mais on a à peu près quand même une idée, une photographie assez précise des habitants et du recensement en France. En France, est-ce qu'il y a une forme de défiance, d'inquiétude des habitants, des interrogations ? Aujourd'hui, on sait que tout le monde dit qu'on a tendance à être fiché un peu partout avec Internet, les GAFA. Est-ce que le recensement continue de jouir d'une bonne cote de confiance, de popularité en France ?
Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours encore 96% de répondants au recensement. Donc c'est quand même un très bon taux de réponse. Et donc ça montre que la population adhère encore en très grande majorité à cette opération civique. Malgré tout, des personnes se posent la question finalement, pourquoi vous venez me poser ces questions ? Vous devez bien les avoir dans d'autres fichiers.
Je suis fichée partout, etc.
Alors évidemment que si on avait parfaitement ces informations connues dans d'autres fichiers, on ne ferait pas une opération aussi lourde et aussi coûteuse. En France, on n'est pas un pays où on a un registre de population qui nous permettrait de connaître à tout moment les personnes vivant sur le territoire. On a des données administratives, hein, par exemple des données fiscales ou sociales, mais quand on les compare au recensement, on se rend compte qu'elles ne sont pas parfaites et qu'elles ne permettent pas de localiser proprement certaines populations très mobiles. Par exemple, les étudiants. Pour savoir où vivent les étudiants, on a vraiment besoin d'une information directe.
Parce que les cartes d'identité, par exemple, ne sont pas forcément actualisées. Alors, on parlait de cette relative cote de confiance pour le recensement en France. Ce n'est pas le cas ailleurs. Gilles Pison, vous nous parliez de l'Europe du Nord tout à l'heure, qui avait abandonné les méthodes de recensement pour se baser sur des registres. Est-ce que vous évoquiez la nécessité de faire des économies aussi budgétaires ? Est-ce qu'il y a aussi des raisons de méfiance dans certains pays ?
Oui, et toujours, et c'est normal qu'on se pose des questions, où vont les informations, mais on a beaucoup progressé, vous savez que des recensements un peu du type de ceux que l'on fait, c'est assez récent dans l'histoire humaine, il y a moins de 2 siècles, hein. Et les premiers recensements français, le premier a eu lieu en 1801, sous Napoléon. C'est Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, qui était en charge de l'organiser. Alors, il était assez mauvais. Hein, c'était, et puis,
on comptait les femmes à cette époque ou pas ?
Oui, déjà. C'était sous l'Antiquité qu'on ne comptait pas les femmes. On comptait les chevaux, par exemple. voilà. Mais pour ce qui est des recensements comme on fait aujourd'hui, au début, il n'y avait pas une administration séparée. C'était le ministère de l'Intérieur. Et donc, il y avait cette crainte de toujours, quand un gouvernement, un royaume faisait un recensement, que ça serve à asseoir l'impôt ou que ça serve à lever des troupes. Et donc, une partie des gens, bien sûr, ne répondait pas. Et donc, il a fallu que les statisticiens comprennent qu'il fallait créer une autorité indépendante, un service de la statistique de la France. Hein, en 1833, a été créée une structure spécialisée et indépendante du fisc, du ministère de l'Intérieur et des Armées, et pour effectuer cette opération. Et il faut répéter que toutes les informations données ne vont pas aller au fisc et tout, c'est indépendant. Alors, on a beaucoup progressé quand on a fait cette séparation complète. Et c'est la règle, parce que, bien sûr, les gens ne vont pas vous fournir les informations si ça va se retrouver aux impôts ou si ça va servir à...
Mais pour les pays d'Europe du Nord qui ont abandonné les recensements...
Mais c'est parce que, eux, ils sont tellement bien organisés qu'ils disposent de registres de population, ça fonctionne bien. Et donc, ils ont des informations aussi précises, presque plus précises, en interrogeant leurs registres. Donc, c'est une minorité de pays à l'échelle de la planète. Hein. C'est les pays scandinaves. C'est l'Autriche aussi qui ne fait plus de recensement. Parce que c'est vrai que c'est une opération lourde, coûteuse. Et puis, en plus, voilà, il y a cette méfiance chez certains.
Une augmentation des taux de refus, par exemple.
Ben voilà. Et alors... Il faut dire que le recensement français s'est amélioré en passant à cette méthode de recensement tournant, parce que les enquêteurs, ils travaillent chaque année, ils sont mieux formés, donc on a gagné en qualité aussi.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, soit parce que vous avez vécu un recensement dans votre commune, ou parce que vous avez des questions à nous poser. Comment compter la population? Pourquoi compter la population d'un pays? On donne la parole à Adamou qui nous appelle de Douala, au Cameroun. Bonjour Adamou.
Bonjour Emmanuel.
Adamou, vous êtes employé dans une cimenterie, mais vous avez été agent de recensement bénévole au Cameroun. Racontez-nous.
Effectivement, madame, oui, j'ai participé au recensement pilote que le bureau de recensement de la population a organisé. Et ça ne concernait que quelques communes au Cameroun, et parmi lesquels Bangoura, où j'étais agent recenseur.
Oui, donc dans l'ouest du Cameroun. Hein?
Oui, c'était dans l'ouest, précisément dans le département du Nord.
Uh-huh. C'était en quelle année ça, Adamou?
Oui, c'était en 2017.
D'accord, il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu un recensement qui devait démarrer en 2016 au Cameroun, mais qui n'a jamais réellement été effectué sur le territoire et dont, bien sûr, on n'a pas eu de résultats. Mais vous, en tout cas, vous avez été, alors, vous avez accepté d'être agent de recensement bénévole. Pourquoi avoir accepté?
Oui, je l'ai accepté, madame, premièrement pour enrichir en quelque sorte mon curriculum vitae, mon CV.
Oui.
Et en plus que ça concernait un peu mon domaine, puisque la géographie, c'est aussi la démographie.
Oui.
C'était un peu ça, madame.
C'est ça. Vous avez 22 ans, et vous avez 22 ans, vous avez fait des études de géographie, hein, je crois, Adamou.
Oui, madame, j'ai une licence en géographie.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé? Quels souvenirs vous gardez de ce travail? C'était dur?
Oui, ça n'a pas quand même été facile. Mais nous en sommes sortis pas mal parce que, d'abord, j'étais originaire de cette commune-là, la commune de Bangoura.
Oui.
Et donc, des conditions qu'on a imposées, comme pouvoir parler la langue locale, c'était ma langue, donc ça a été facile pour moi.
Donc le Bamoun, hein?
Oui, le Bamoun, c'était ça.
Oui, et alors comment ça se passait concrètement? Vous aviez un appareil à disposition, des fichiers?
D'accord. Donc, ça se passait à l'aide d'un smartphone.
Oui.
On a enregistré les données, ménage par ménage, et dans des zones de dénombrement, comme ça se passe souvent sur le papier, quoi. Mais donc, cette fois-ci, c'était dans un smartphone.
Donc là, vous aviez le questionnaire dans le smartphone, et ensuite, oui, c'était envoyé ensuite au superviseur, c'est ça?
Oui, et le questionnaire était sur le smartphone, à la fin de chaque journée. Les agents recenseurs transféraient le questionnaire et les données recueillies au chef d'équipe.
Mmh.
Et après deux ou trois jours maintenant, le chef d'équipe le transfère au contrôleur. Mmh.
Oui.
Et le contrôleur maintenant, lui, le transfère au superviseur. Et c'est le superviseur qui était en contact avec le serveur directement.
Avec le serveur informatique. Et pendant combien de jours vous avez été agent de recensement bénévole à Damou?
Oui, c'était environ un mois. Oui, plus d'un mois même, parce que nous avons fait trois semaines de formation et le recensement a duré plus de 2 semaines quand même.
Alors, à sillonner les routes, pas toutes goudronnées, j'imagine.
Voilà, vraiment, c'était l'une des difficultés auxquelles nous avons rencontrées, parce que les routes étaient en très mauvais état, ce qui rendait l'accès à certaines zones très difficile.
Mmh.
Il y a eu des zones où nous avons pratiquement mis 3 jours pour y accéder. Parce que il y avait même les voitures ne pouvaient pas y accéder.
Mmh.
Il y a même des mototaxis qui refusaient d'y aller.
Et vous savez, Adamou, ce que sont devenues toutes ces données que vous avez collectées, qui vous a demandé pas mal d'efforts?
Non, je ne sais pas encore, madame, je ne sais pas.
Mmh. Ben merci en tout cas, Adamou, de nous avoir livré votre expérience d'agent de recensement. Bon, au Cameroun, le dernier grand recensement de 2005, les résultats ont été publiés, me semble-t-il, en 2009. Et puis là, le recensement qui devait démarrer en 2016 n'a démarré que partiellement. Mais enfin, en tout cas, il y a eu des communes qui ont été recensées, en témoigne l'appel d'Adamou. Merci, très très bonne journée à vous à Douala, à Damou. On voit bien qu'agent recenseur, c'est pas une partie de tourisme, hein, dans certains pays. Gilles Pison.
Oui, et puis c'est une responsabilité. Et donc Adamou, là, il nous disait qu'il avait participé à l'enquête pilote. Donc beaucoup de recensements commencent par tester le questionnaire, tester toute la méthode, la logistique, parce que c'est très lourd, hein, pour vérifier que tout fonctionne. Et puis le vrai recensement a lieu après. Alors je ne sais pas pour le Cameroun, mais probablement que ça va être bientôt fait, puisque tout a été testé, donc il reste peut-être plus qu'à... Mais c'est vrai que c'est une responsabilité, c'est un travail important, celui d'agent recenseur. Et presque le plus important, c'est d'avoir la confiance, d'obtenir la confiance des personnes pour qu'elles répondent aux questions.
Et d'autant plus compliqué dans des zones rurales, évidemment. À la limite, sillonner un quartier très densément peuplé d'une ville, même un bidonville, c'est moins compliqué?
Oui et non, c'est pas les mêmes difficultés. Vous savez, les zones rurales, en plus, les agents recenseurs, ils connaissent bien, ils se déplacent à pied ou en vélo ou en mobylette, je vois pas la difficulté. Dans les villes, c'est d'autres difficultés pour repérer les ménages, les entrées des maisons, pour n'en oublier aucune. Alors ça, c'est un travail de cartographie, normalement, qui est fait avant le recensement lui-même. Mais chaque type d'habitat a ses difficultés.
On accueille un auditeur au 33 1 84 22 71 71. C'est une voisine. Pardon, bonjour Aminata.
Bonjour Aminata.
Et Aminata, vous êtes dans l'Eure-et-Loire en France. Vous êtes à Épernon, très précisément, pas très loin de Chartres. Vous êtes mauritanienne d'origine. Vous voulez nous parler de votre pays d'origine ou du recensement en France?
De mon pays d'origine.
Oui.
Qui a une incidence aussi les Mauritaniens qui vivent en France.
Mmh.
En fait, depuis 2011, l'État mauritanien a mis en place un enrôlement qui est devenu vraiment source de problèmes pour les populations négro-africaines, négro-mauritaniennes. C'est-à-dire les Peuls, les Wolofs, les Bambara et les Soninké. Parce que, en fait, au niveau du recensement, ils font tout pour exclure cette frange de la population de l'enrôlement. Pour vous donner un exemple, tous les gens qui ont été déportés en 89-90 vers le Sénégal et le Mali, il y en a qui sont revenus avec les accords qui ont été signés. Ils n'arrivent pas à se faire enrôler parce que l'État leur demande de prouver que c'est des Mauritaniens. Mmh. Alors qu'au moment où on l'a déporté, l'État avait pris le soin quand même de déchirer leur pièce d'identité. Tout ce qui pouvait justifier leur mauritanité, ils sont partis les mains vides en gros. Ils n'avaient rien. Donc, difficulté pour prouver leur mauritanité. L'autre partie de la Mauritanie qui n'était pas déportée et qui a toujours vécu en Mauritanie, il y en a quand ils arrivent, on leur demande de réciter des versets de Coran pour prouver que c'est des musulmans, et comme c'est des musulmans, c'est des Mauritaniens. Mmh. Il y en a quand ils arrivent, on leur dit, ok, il faudra que vous nous rameniez les papiers de vos parents. Papa décédé ou maman décédée, mmh. Connaissant l'état civil mauritanien, impossible d'avoir un certificat d'essai. Mmh. Donc, c'est source de frein pour l'enrôlement de cette personne-là. Mmh. Il y a tellement de freins qui sont mis en place pour empêcher les Noirs de s'enrôler, donc d'exister. Mmh. Et parallèlement à ça, c'est un autre problème qui surgit pour ceux qui sont en France, qui, arrivés à l'expiration de leur carte de séjour, mmh. on leur demande de présenter un passeport qui est valide.
Oui.
Et comme ils n'ont pas pu faire les démarches pour s'enrôler, ils n'ont pas de papier valable, donc il y en a qui retournent au pays et qui se retrouvent bloqués là-bas, qui n'arrivent pas à retourner en France. Vous voyez, l'enrôlement en Mauritanie, c'est devenu vraiment un cauchemar pour les populations. Et il y en a qui ont perdu comme ça leur terre, parce qu'on leur dit, bon, vous dites que cette terre vous appartient, ces parcelles vous appartiennent, mais vous n'êtes pas mauritanien parce que vous n'êtes pas enrôlé, donc vous ne pouvez pas certifier que ces terres sont à vous. Mmh. Et on en profite pour me déposséder les populations noires au bord du fleuve pour une bonne partie de leur terrain. Et on voit des champs qui sont vendus à des Émiratis, à des Saoudiens, à des populations qui n'ont rien à voir avec la terre qu'ils sont en train de cultiver. Mmh. Et ce qui est bizarre, on voit quand même qu'ils enrôlent des Sahraouis. Ils enrôlent des gens qui viennent des Berbères. Mm. Ils enrôlent pas mal d'Irakiens qui sont à Mauritanie.
Vous avez le sentiment, hein, pour résumer Aminata, qu'évidemment il y a beaucoup de politisation dans cette notion d'enrôlement. Merci beaucoup Aminata de nous avoir appelé pour témoigner. Gilles Pison, il y a de nombreux pays à l'heure actuelle sur la planète où la notion de recensement pose un problème politique. Pourquoi ce sont des processus qui sont critiqués politiquement et qui sont en réalité très reliés à la constitution de fichiers électoraux?
Alors, on
également,
en parlait
pas seulement, puisque là, Aminata a abordé les questions foncières.
Il y a des règles que se sont données les statisticiens, les gouvernements eux-mêmes pour faire un recensement. Et une des premières règles, c'est qu'on compte tout le monde. Chacun compte. Chacun qui réside, qui habite, qui dort le jour du recensement. Et ça, quel que soit son statut. Que son statut soit remis en cause dans la société, dans l'État, parce qu'il y a des gens qui sont perçus comme des minorités, qui ne sont pas toujours acceptés, mais peu importe, tout le monde doit être recensé est compté dans le recensement. Et donc, c'est vrai que dans certains pays, et notamment en Mauritanie, il y a ces groupes dont nous a parlé l'auditrice, voilà, où il y a ces conflits, ces contestations. Peu importe, tout le monde compte. Qu'on soit étranger ou ayant la nationalité, qu'on soit d'un statut ou d'un autre, c'est une personne humaine, elle est recensée. Même s'il y a des contestations sur leur droit, leur statut, sur leur droit de propriété, comme on voit là. Donc un recensement en Mauritanie doit compter tout le monde.
Un recensement, ce n'est pas la même chose qu'un fichier électoral sur le plan technique.
Exactement. Et il y a des pays où on a le droit de vote, les expatriés, c'est-à-dire les personnes qui ont la nationalité du pays, mais qui n'y vivent pas. Et donc, lors des élections, eh bien, elles ont le droit de voter. Donc, il faut bien sûr établir le fichier des électeurs. Donc, mais ce n'est pas la même chose que le recensement dont on parle.
Oui. Néanmoins, si on prend le cas de la République démocratique du Congo, on a beaucoup dit que l'absence de recensement d'abord avait pesé sur les crises électorales successives et que effectivement, ça avait été sujet à manipulation, notamment à retarder également les élections.
Mais vous savez, il y a beaucoup de pays où il y a des guerres, des conflits, une instabilité. Mais même dans les pays avec guerre civile, on essaye d'effectuer des recensements. Vous savez que la Côte d'Ivoire, pendant les années de guerre civile, a organisé des enquêtes et des recensements nationaux. Et chaque parti a eu soin de faire le recensement ou l'enquête dans le territoire qu'elle contrôlait pour arriver à des chiffres. C'est élémentaire. Même si on fait partie de l'opposition, oui. Même si on fait partie
dernier
d'une
recensement
fraction.
Dernier recensement en Côte d'Ivoire, il a été contesté en 2014
après,
par l'opposition.
Mais tout le monde a intérêt à ce qu'on fasse un recensement, même dans les pays en conflit. Voilà.
Vous nous appelez bien sûr pour poser vos questions au 33 1 84 22 71 71. Pourquoi, comment compter la population et puis aussi quelles incidences politiques? On en discute avec vous dans quelques instants.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Chez 7 milliards de voisins, 7 milliards de voisins depuis le début de l'émission, on dit qu'on n'est plus du tout 7 milliards de voisins avec vous, Gilles Pison et Valérie Roux. On est 7 milliards et 700 millions sur Terre, approximativement, mais relativement précisément, nous expliquiez-vous depuis le début de l'émission, Gilles Pison. Est-ce qu'un recensement peut représenter un risque de conflit? Le fait de chiffrer, par exemple, des appartenances ethniques?
Alors, ça peut être un risque quand les résultats, quand ils sont publiés, sont contestés par une partie du pays. Et on a l'exemple du Nigeria, où, depuis qu'il est indépendant, plusieurs recensements ont été à l'origine de guerres civiles. Le premier recensement qui a été mené après l'indépendance, en 1962, qui a été effectué de façon correcte, lorsque les résultats ont été publiés, il a été contesté par une fraction du pays. Il faut savoir que le recensement est important. Il sert à décider combien il va y avoir de représentants au Parlement de chaque région. Et au Nigeria, il y avait la fraction nord et la fraction sud, il y a toujours, hein, à peu près d'effectifs proches. Et donc, il y avait un enjeu de pouvoir. Et donc, la fraction qui s'est avérée être légèrement minoritaire, avec moins de parlementaires que l'autre, a contesté. Et de fil en aiguille, donc on a annulé les résultats, on a fait un autre recensement l'année suivante, en 1963, qui était de plus mauvaise qualité, d'après les statisticiens, également contesté jusqu'à cette guerre civile au Biafra qui avait en partie des raisons de contestation suite au recensement. Ça s'est reproduit la fois suivante. Donc c'est un pays qui a eu très peur des recensements pendant plusieurs années parce que c'était la source de guerre civile. Alors maintenant, ils ont arrangé leurs affaires, ils font des recensements, et ils sont publiés, ils ne sont plus contestés comme autrefois, donc ça s'est calmé, mais ça peut être un enjeu.
Je disais en début d'émission, une personne sur sept dans le monde n'aurait aucune existence légale. Avec les méthodes de recensement actuelles, on parvient à recenser ces personnes.
Ah oui, justement, il faut recenser tout le monde, y compris, on en parlait pour le recensement français, les personnes sans domicile fixe.
Parce que c'est une méthode du porte-à-porte et qu'on s'intéresse de savoir qui habite où, à quel
moment.
Oui,
mais alors celles qui n'ont pas de porte, qui n'ont pas de logement, c'est une difficulté particulière, mais il faut s'arranger pour les compter aussi. Et donc, en France, il y a une méthode.
Quid des statistiques ethniques en France est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des moyens, Valérie Roux, vous êtes chef du département de la démocratie, de la démographie à l'INSEE. Quelles sont les questions que vous êtes autorisée à poser ?
Alors, dans le recensement, on pose des questions qui sont très factuelles, mais on demande la nationalité de la personne et son lieu de naissance. Ça permet de savoir quelles sont les personnes immigrées et quelles sont celles qui sont de nationalité française. Mais on n'a pas de questions, comme aux États-Unis, sur la communauté d'appartenance ou autre. Alors on en a, il y a une exception dans les recensements en France, c'est en Nouvelle-Calédonie, où on fait un recensement tous les 5 ans. Et là, il y a des questions sur les communautés d'appartenance, avec des enjeux politiques très forts, qui font un peu penser au Nigeria, parce qu'il y a des questions de rééquilibrage communautaire avec les accords de Nouméa, etc.
Je vous lis deux messages d'auditeurs. Adama Bobo-Dioula Adama est au Cameroun, pardon. Il nous dit que le recensement de la population n'est pas dans la culture de nos gouvernants ici. Il est bien au Burkina Faso, pardon, il y a une erreur. Il est au Burkina. Il nous dit que ce n'est pas dans la culture de nos gouvernements. Ici, au Burkina Faso, le dernier recensement date de 2006, effectivement, et le recensement qui était prévu en 2018 a été abandonné, en tout cas n'a pas démarrer, et donc il nous dit on n'a pas de données fiables sur la population, il semble le déplorer. Amadi, étudiant en géographie à Bamako, au Mali, là aussi, même problème. Au Mali, ces opérations, nous dit Amadi, sont loin de refléter la réalité. En plus, le poids de la culture est gênant. Les enquêteurs ne parlent pas la même langue que les enquêtés, ce qui fait qu'en milieu rural, l'on se méfie de l'étranger enquêteur. Moi, je suis originaire du nord du Mali. Or, les éleveurs sont nomades. Les cultivateurs vont vers le sud en attendant que la pluie commence. En raison de ces migrations, le recensement dans le nord Mali n'a pas de sens. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas eu de recensement au Mali depuis 2009. Mais on voit bien que les auditeurs sont très sensibilisés à ces questions et qu'ils semblent dire que c'est compliqué tout de même, d'une part dans des pays qui sont en proie à l'insécurité, mais pas seulement. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été dans le studio de RFI. On se retrouve lundi pour 7 milliards de voisins. Vous aurez la parole sur les stages en entreprise, les galères et aussi un tremplin vers l'emploi. À lundi.